Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Sortie de classe. Donc, c'est une édition spéciale, mais pas tout à fait spéciale. Oui, c'est spécial, c'est toujours spécial de recevoir des invités à Sortie de classe. C'est aussi toujours spécial de vous recevoir à Sortie de classe, de savoir que vous l'écoutez, que vous commentez. Alors, je suis très heureux ce soir de rencontrer Joël Monzé. Malheureusement, Joël ne pouvait pas être avec moi ce soir. Donc, j'ai pré-enregistré l'entrevue. Donc, vous verrez l'entrevue tout à l'heure que j'ai fait avec lui. C'est une entrevue de 55 minutes au moins. Alors, vous pouvez quand même commenter si vous êtes sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Twitter, sur X en fait, sur Facebook, la page Facebook du centre d'apprentissage ou sur YouTube. Alors, gênez-vous pas pour commenter. Et vous pouvez quand même poser vos questions parce que je vais les relayer à Joël, ces questions-là, dès que l'émission sera terminée et au courant de la semaine, je pourrai lui envoyer vos messages et vos questions. Alors, quelques petits messages, comme d'habitude, à Sortie de classe. Donc, bienvenue à tous ceux et celles qui ne connaissaient pas Sortie de classe. Si vous allez sur ludoka.ca/sortie de classe, je vous mets ça ici. Vous allez avoir toutes les sorties de classe depuis 6 saisons déjà. Presque 80-90 heures d'émission. C'est vraiment incroyable. Et on a fait beaucoup de sujets. On a passé à travers beaucoup de choses. Je reçois aussi des personnes qui ont des sujets à débattre. Donc, des sujets où est-ce qu'on peut s'obstiner un peu. C'est aussi ça, le but de sortie de classe, permettre un débat, donc un débat sain et respectueux. Ce qu'on a rarement, vous me direz sérieusement, c'est au Québec, là, on n'a pas le débat facile. On prend souvent le côté personnel hein, d'un argument, mais au contraire, ça ne devrait même pas être personnel. Donc, on peut s'obstiner. Et j'ai eu pas des débats en direct, donc j'ai accueilli, mettons, disons, les deux clans, si vous me permettez l'expression. On parlait, entre autres, de données probantes. C'est quoi une donnée probante? Les méthodes d'enseignement, etc., etc. Donc, vous irez voir ça. Donc, c'est sur ludoka.ca/sortie de classe. Je dois aussi vous dire que je serai au Salon de l'éducation. C'est les 28 et 29, 27 et 28, pardon, avril. Donc, je serai au kiosque 402. Vous pourrez venir me voir. Je vais vous parler de la formation que j'offre, entre autres aux nouveaux profs, aux non légalement qualifiés aussi. Donc, c'est une excellente formation pour débuter sa carrière. Ça s'appelle « J'y suis pour rester ». Ce n'est pas pour rien qu'elle s'appelle comme ça. C'est parce que je veux que les profs restent dans la plus belle profession du monde, qui est l'enseignement. Après l'émission, je vais transformer cette émission-là en balado que vous pourrez suivre sur les différentes plateformes. Donc, il faut aller voir Pierre qui roule. Et normalement, vous avez toutes les balados. Vous pouvez écouter ça dans votre voiture, dans le trafic ou en vous entraînant ou en courant. Donc, selon. Sans plus tarder, écoutez, je ne m'attendrai pas trop longtemps parce que l'entrevue est assez longue. Donc, c'est au moins 55 minutes. Encore une fois, ceux et celles qui sont en ligne avec moi, n'hésitez pas à commenter. Vous pouvez commenter en dessous, là, sans problème. Vous pouvez même me dire un petit bonjour. Moi, je vois vos commentaires. Je vais vous saluer au passage. Donc, peut-être un petit bonjour de quelqu'un qui nous écoute présentement. Donc, gênez-vous pas et gênez-vous pas pour poser des questions. S'il y a des choses qui vous titillent que Joël va dire, je le tutoie parce qu'on s'est déjà rencontrés. Je l'explique dans l'entrevue. Donc, gênez-vous pas pour poser des questions directement. Je vais les envoyer, comme je disais, à Joël. Alors, sans plus tarder, j'accueille mon invité. Ah, mais avant tout ça, je vais vous le présenter. Je vais vous le présenter parce que là, c'est pré-enregistré. Donc, après son doctorat en neurosciences obtenu à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, Joël Monzé a fondé l'Institut du développement de l'enfant et de la famille, puis l'Institut de psychologie et neurosciences. En parallèle, il a été professeur associé au département de pédiatrie et de psychiatrie, ainsi qu'au programme de sciences cliniques de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Désormais, il poursuit sa carrière comme superviseur clinique et formateur dans le domaine des neurosciences affectives et sociales, ainsi qu'en éthique clinique. Auteur et conférencier, il propose une vision intégrative des multiples facettes de l'être humain. Mesdames et messieurs, je vous présente Joël Mauzé tout de suite après ceci. Joël Mauzé, bonjour et bienvenue à l'émission Sortie de classe. Ça va bien?
Ça va très bien, merci. Et vous?
Très bien, très bien. On va se tutoyer, Joël, parce qu'on s'est
fait. Ah oui, on peut. Hein? Juste que vous, parce que je m'adressais à tout le monde qui nous écoute.
Ah oui. on s'est rencontrés la première fois. En fait, on a un ami commun, Philippe Bussière. Philippe. On s'est rencontrés aussi lors de la pandémie. Hein? Ça a commencé assez. Ça a été quelque chose, la pandémie, au niveau des jeunes, entre autres. Et d'ailleurs, dans ma classe en cinquième année, j'ai les élèves qui étaient en première année. On s'en reparlera un autre jour.
J'ai pas doute qu'il y a des choses à raconter.
Oh là 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 là. Mais là, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup du temps d'écran, les écrans avec les jeunes, le développement sur le cerveau, le développement sur l'être humain en général. Je pense qu'il y a des nouvelles études qui sont sorties, bon, avant Noël. Parle-nous-en un petit peu, Joël. Qu'est-ce qui est ressorti de ces études-là dernièrement?
Mais en fait, il y a deux choses. La première chose, c'est que ce n'est pas nécessairement quelque chose de nouveau, dans le sens que non. La plupart des parents l'observaient, la plupart des intervenants, en fait, l'observaient. Souvent, il y a eu de l'aveuglement volontaire de la part des adultes parce que les écrans viennent jouer un rôle parfois de gardienne à la maison qui soulage parfois des parents qui vivent beaucoup de stress dans leur travail, dans leur vie quotidienne et ainsi de suite. Donc, ils sont heureux quand l'enfant éventuellement est sur l'écran. Je pense à une maman qui est en train de préparer un enfant de 2 ans. Ben, si c'est les grands sont devant la télévision ou sur une tablette, ben, elle s'occupe de l'enfant de 2 ans. Elle n'a pas à s'occuper en fait, de l'enfant de 4 ans, de 5 ans ou de 6 ans qui pourrait éventuellement être demandant à un moment où elle n'est pas disponible. Donc, les écrans, nous, malheureusement, et je dis bien malheureusement, nous rendent tellement de bons services que parfois, on n'en voit pas les effets problématiques. Mais je dirais que moi, ça fait 15 ans que je tire la sonnette d'alarme par rapport aux écrans. Parce que j'ai vu les dégâts comme psychothérapeute, parce que dans mes interventions familiales, c'était très régulièrement le sujet le plus fréquent que j'observais comme difficulté, qui plus est quand les familles sont recomposées, qui plus est quand les enfants jouent sur 2 maisons, parce que avec les adolescents, ils avaient tendance à aller dans la maison ou vouloir rester plus souvent dans la maison du parent le plus laxiste par rapport au contrôle des écrans. On ne se rend pas toujours compte non plus de l'impact que ça peut faire. Tu sais, moi, par exemple, mes enfants ont toujours été avec nous dans les restaurants, je vais dire, d'adultes, et on leur a appris depuis qu'ils sont tout jeunes à être calmes au restaurant. OK? Et le nombre de fois qu'on voit dans ces mêmes restaurants-là des enfants qui sont là avec une tablette, avec un jeu, puis ça fait du bruit, c'est pas grave. C'est pas grave si ça dérange toute la salle. D'accord? Donc, il y a une perte de contact aussi avec la bienséance. D'accord?
J'étais
en train d'attendre la réparation de ma voiture. OK? Puis j'avais un jeune enfant qui regardait la télévision. Il y avait les bonhommes dans la salle d'attente du garagiste. C'est quelque chose de tout à fait normal. L'enfant, il avait 6 ans. Il était là avec sa maman, ou peut-être qu'il n'avait même pas 6 ans. Sinon, il aurait peut-être été à l'école. Il est en train de regarder la télévision. Ça l'occupe pendant que la réparation de la voiture de maman est en train de se faire. Pourquoi pas? Sauf que là, à côté, il y avait 2 autres hommes. Un monsieur, d'accord, dans la 60aine bien faite, qui écoutait des vidéos, d'accord, sans mettre des écouteurs, en nous partageant des niaiseries, parce que moi, personnellement, j'avais pas envie d'entendre ce qu'il faisait, d'accord. Et en même temps, il y avait un autre bonhomme dans la 40aine qui était en train de parler au téléphone, très actif, et qui tournait en rond au milieu de la salle d'attente, d'accord, en train de gérer une conversation avec son téléphone numérique très, très intense, dirons-nous. On a perdu tous le contact avec les normes de bienveillance, les normes de bienséance par rapport aux écrans. Et c'est là que ça devient de plus en plus problématique. C'est pas juste un problème de jeunes, c'est un problème de jeunes, d'adultes, de jeunes parents, d'apparents de quarantaine, de parents, de grands-parents dans la 60aine. D'accord? Et c'est ça qui devient problématique parce que, tu sais, il y a même maintenant, tu as peut-être déjà dû le remarquer, Pierre, quand on va prendre de l'essence, il y a une compagnie qui a mis des télévisions. ou quand on met de l'essence. Donc, on n'accepte pas d'être 2 minutes seul sans être, appelé.
Bombardé.
Il y a des hôtels et des restaurants qui, dans les pissoirs, le pissotoir d'hommes, les urinoirs, il y a une télévision pendant qu'on fait pipi. OK? Et,
ouais.
Allô? Donc, on est continuellement submergé. Et c'est là le problème, parce que comme on est hyper saturé, et je dis « on », je veux vraiment qu'on nous mette, qu'on nous implique comme adultes,
ouais.
D'accord? Comme on est complètement saturé de plein de choses, eh bien, veut pas, notre rapport au numérique a complètement changé. Et quand notre enfant est sur le numérique, on s'entend qu'il nous fout la paix. Et peut-être que le parent a besoin qu'on lui foute la paix 5 ouais. minutes, 15 minutes. Je le comprends tout à fait. Ouais. Mais on se piège tout le temps. Et ça devient des comportements addictifs. Alors, ce que moi, j'observais, en fait, sur le plan clinique, il y a une quinzaine d'années, j'ai commencé à lire des articles scientifiques qui ont été écrits. Il y a 2 livres extraordinaires qui ont été faits par Michel Desmurgés, qui était un collègue neuroscientifique qui venait valider avec les études scientifiques que lui a observées dans 2 livres, TV Lobotomie et La fabrique du crétin digital. D'accord. Donc, en fait, ces 2 livres qui sont du tape à l'œil, on s'entend, c'est très marketing, sont ces titres, mais en même temps, ce sont des livres très intéressants parce qu'ils font une recension, il fait une recension, en fait, des écrits là où ça en est. J'ai fait partie des experts qui ont été consultés par Lionel Carman quand le gouvernement s'est attaqué à des stratégies pour pouvoir justement prendre conscience de l'impact des écrans et peut-être éventuellement proposer des alternatives à la manière dont on les utilise de manière envahissante pour l'instant. La première rencontre s'était faite en fait le 10 février 2020. La deuxième rencontre devait avoir lieu le 20 mars 2020. On s'entend que la deuxième rencontre n'a jamais eu lieu.
Non.
La pandémie démarrait. C'est en parlant tantôt qu'on a eu la crise sanitaire, c'est pas si loin que ça, même si la plupart d'entre nous, on essaie de l'oublier. Mais ça reste quand même que là-dessus, on s'est retrouvé à de 2 choses l'une. La première, c'est que la santé publique a fait des spots publicitaires à la radio et à la télé pour dire « jouer à des jeux vidéo, sauver des vies ». Pourquoi? Parce que nos ados, en fait, ont été privés d'école à partir du 13 mars 2020 et ne sont rentrés à l'école que fin du mois août, début du mois de septembre. Donc, pendant presque 6 mois, on les a gardés à la maison. On leur a demandé de ne pas aller voir leurs amis dans le parc. On leur a demandé de ne pas faire de rencontres. On leur a empêché d'aller dans les nightclubs, parce que je pense aux jeunes adultes, d'accord?
Et on leur a demandé de ne pas déranger leurs parents qui étaient en ligne.
En train de travailler.
En train de travailler.
Donc, veut pas, la santé publique, parce que Lionel travaillait avec la santé publique tout autant, et les quelques scientifiques comme moi qui étaient impliqués, c'est que, quelque part, on est coincé. On peut pas dire d'un côté, c'est toxique, et de l'autre côté, les encourager. Tu sais, c'est comme si je disais à mon jeune, saoule-toi, comme ça, tu vas pouvoir arriver à éviter de sortir de la maison.
Exact.
Oui, je vais peut-être résoudre le problème dans le sens qu'il ne prendra pas de l'alcool avant de prendre son vélo moteur, sa voiture ou sa moto, mais on s'entend que c'est peut-être pas l'idéal de gérer les choses de cette manière-là.
Exact.
Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que la première publication qui a été faite par le gouvernement, c'est une stratégie. Et donc, de parler surtout de la sédentarisation, des impacts de la sédentarisation des jeunes et des moins jeunes face au numérique. Et c'est vrai que si je passe des heures et des heures devant mon écran, je suis pas en train de faire du foot, je suis pas en train de me promener, je suis pas en train de faire du tennis, je suis pas en train de faire du soccer, je suis
pas en train de lire.
Je suis pas en train de lire, mais à la rigueur, lire, tu es en train, t'es sédentaire aussi. D'accord?
Exact.
Donc, en fait, il y a eu une sédentarisation. Et l'autre stratégie qui a été faite, c'est de donner de l'argent aux chercheurs pour mesurer un certain nombre de choses qu'on voyait sur le plan clinique, mais on voulait arriver à, concrètement, on peut-tu mesurer? Est-ce qu'on peut avoir des données probantes qui vont nous aider à organiser notre société désormais? Et c'est un peu là qu'on en est aujourd'hui. C'est qu'on a des données probantes qui viennent compléter ce que Michel Desmurgés avait raconté de son côté. Il y a d'autres chercheurs qui ont continué leurs recherches. Et aujourd'hui, on ne trouve plus bizarre de dire qu'on utilise trop les écrans. Tu sais, j'ai fait des entrevues radio et des entrevues télé dans les années 2000 et 2010 sur ces sujets-là, et souvent, j'étais confronté à une non-compréhension de l'impact, pas nécessairement de l'animateur qui, ou du journaliste, mais de ses recherchistes. Parce que souvent, c'est des gens qui sont un peu plus jeunes, qui sont nés dans le numérique, d'accord?
Oui.
Donc, tu sais, pour moi, Internet, c'est au début de mon âge adulte, j'avais 25, 26 ans, quand Internet s'est démocratisé, OK? Donc, je n'ai pas passé mon adolescence devant, il y avait la télévision, par contre, mais elle n'était pas, la télévision, elle n'était pas dans ma poche, d'accord? Quand je veux parler avec un ami, je prends le téléphone, je n'envoie pas un texto. Donc, c'est certain que les normes et les habitudes de vie ont changé. Nos jeunes ont grandi là-dedans. C'est un peu comme mes grands-parents qui n'ont pas connu la télévision quand ils étaient enfants, alors que moi, la télévision a toujours fait partie de mon univers.
Et Joël, pendant les pédagogiques, moi, je me souviens, pendant les pédagogues qu'on avait, où moi, je viens de cette île, donc quand il y avait une tempête, torse-toi de là, il n'y avait pas d'école, on s'entend? Mais les émissions de télé pendant le jour ne m'étaient pas destinées à moi, là. C'était destiné pour des gens qui restaient à la maison, qui travaillaient à la maison. C'était plate regarder la télé le jour.
Donc, qu'est-ce que tu faisais? Tu allais jouer avec tes copains, faisais le roi de la montagne, tu faisais du vélo, tu faisais des igloos.
Nous, la tempête, là, c'était... Tasse-toi, on s'en va dehors. Là. Et écoute, le vent vient de cette île. Quand il y avait une tempête, Joël, c'était une tempête. Là. Tu sais, il y avait de la neige. Mais nous, on était là. Oh! On espérait qu'il n'y ait pas d'école. Et quand il n'y en avait pas, c'était dehors, dans la neige. On faisait des forts, on se battait, on faisait toutes sortes de choses. Là, aujourd'hui, en pédago, ils sont souvent peut-être à l'école, au service de garde, mais s'ils restent à la maison, Netflix, Crave, Disney+, ils ont des émissions pour se faire... Pour se faire garder. Là.
Tu rajoutes Instagram, tu rajoutes Discord, tu rajoutes tous les réseaux
sociaux. TikTok et compagnie.
TikTok, exactement. Donc, tout ça, c'est certain que ça fait en sorte. Et quelque part, là aussi, on se fait piéger comme parents. Parce que quand mon jeune est dans le sous-sol et qu'il est occupé sur Internet ou devant la télévision, il n'est pas dehors avec son vélo. Il ne risque pas de se faire frapper par un malade mental qui roule beaucoup trop vite sur la route. OK? Il n'y a pas de risque qu'il se fasse kidnapper. Il n'y a pas de risque ceci ou cela. Donc, ça nous rassure que notre jeune est dans le sous-sol. Donc, c'est ça qui est à faire attention pour amener un changement dynamique. Parce que si on ne fait pas un changement dynamique, maintenant, on le sait, mais en fait, on le savait déjà depuis une dizaine d'années, l'impact que ça a sur le cerveau n'est pas ce qu'on voudrait qu'il soit pour le développement de notre jeune.
Mais parlons de ça, de l'impact sur le cerveau. Je recevais Christian Boyer, je ne sais pas si tu connais Christian Boyer, à mon émission, on parlait de l'enseignement explicite. Et à la fin, toute fin, il me parlait qu'il y a des études qui ont été faites sur en fait, il y a des images qui ont été prises du cerveau.
Oui.
Avant et après
les écrans. Cérébrale, le fMRI, entre autres.
Et le cerveau, ça ne grandit pas, là, avec le tu comprends ce que je veux dire?
Mais ce n'est pas pour rien que Michel Desmurget, dans son livre de 2019, appelait ça le crétin digital. Parce que en fait, il y a deux grandes voies qui vont nous amener de la récompense quand on est dans un apprentissage. OK? Oui. Il y a une voie qui est très courte, et une voie qui est longue. La voie courte, elle va nous décharger de la dopamine. La voie longue, elle va nous décharger de la dopamine. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on met une chips en bouche, OK? Si on la laisse fondre sur la langue, on se rend compte que c'est dégueulasse. Pourtant, on en mange. Pourquoi est-ce qu'on en mange? Tout simplement parce que pour notre survie, on a besoin de sel et de graisse. D'accord? Donc, quand on met une chips en bouche, le fait qu'il y a du sel et le fait qu'il y a de la graisse, qui plus est s'il y a des arômes qu'on aime, d'accord? Ça fait en sorte que notre cerveau est leurré. Il nous dit « Hey, c'est bon pour toi, mange-en. » Et donc, à partir de ce moment-là, on va mettre une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Et en fait, on ne s'arrêtera que quand notre estomac, d'accord, commence à être, parce que ça prend du volume dans l'estomac, c'est désagréable. Et là, on va peut-être éventuellement s'arrêter de manger des chips ou quand malheureusement, il n'y en a plus au fond.
Le sac est terminé, c'est ça?
Exactement. Pourquoi? Parce que le cerveau est tellement leurré qu'il n'est plus capable de sentir les signes qu'on n'a plus faim. Il faut que ça soit quelque chose de désagréable pour qu'on arrête éventuellement d'en manger. Eh bien, quand on est en train de manger du chocolat, c'est la même chose. Quand on est en train de faire l'amour, c'est la même chose, parce que c'est une impression de survie. Tu sais, quelque part, les êtres humains doivent, comme toutes les espèces animales et végétales, doivent éventuellement survivre. Donc, à ce moment-là, il faut se reproduire d'une manière ou d'une autre. Donc, la dopamine va être libérée. Quand on a un orgasme, la dopamine, d'accord, est dans le tapis.
Ouais.
Okay? Si je suis en train de lutter contre les Vikings, d'accord, Pierre et toi et moi, on est en train de se défendre, défendre notre village, même si on est tous les deux des êtres profondément pacifiques, d'accord, mais si les Vikings nous attaquent, au moment où on va trancher la tête d'un ennemi, wouhou, décharge de dopamine.
Okay. Ouais.
Eh bien, c'est ce que fait le numérique. C'est que ça a été étudié en termes de stimulation, en termes de couleur, en termes de musique, d'accord, pour que on stimule continuellement la voie courte qui donne un accès à la récompense immédiate. Et le problème, d'accord, c'est qu'au moment où on arrête ces stimulations-là, on ne va pas bien. On est mal. On n'est pas bien. On devient agressif.
On devient en manque.
Exactement. Il y a un manque physiologique qui se fait, qui est exactement le même que la cocaïne. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, c'est certain que ça n'a pas le même dégât parce que ce n'est pas chimique.
Non, ouais.
La cocaïne va venir avec des produits chimiques qui sont extrêmement toxiques, okay? Mais c'est le même principe, d'accord? C'est que tant que je suis dedans, waouh, je me sens vivant. Mais il y a un phénomène d'habituation, okay? Donc, j'en veux de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Alors, on me propose des étapes dans mon jeu vidéo. Okay? On me fait croire que je suis un super-héros. On me permet de couper la tête d'un viking virtuel. Donc, il y a plein de manières différentes d'amener à ce qu'il y ait de plus en plus de dopamine, puis je vais acheter l'autre produit, puis l'autre produit, puis l'autre produit, comme les personnes qui sont prises avec de l'achat compulsif.
Mm-hmm.
D'accord? Je tombe dans une compulsion. Et ça prend 2 à 3 jours pour que cette compulsion numérique s'arrête. Donc, un jeune qui regarde la télévision le matin, ça c'est une donnée qui était rapportée par Michel Desmurgés dont je parlais tantôt, un jeune qui regarde la télévision le matin, il suffit de 9 minutes de télé pour perturber les apprentissages toute la journée.
Oh.
À tous, mais les enfants les plus fragiles, les enfants les plus dépendants de la voie courte, d'accord? Ce qui fait en sorte que quand ils sont à l'école, hey, ça prend du courage pour un prof de rester là au milieu de la classe. Ça lui prend du génie pour arriver à stimuler ses élèves de la même manière que le jeu vidéo ou la télévision le matin. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués à aller chercher cette dopamine-là avec la voie courte. Alors que quand t'enseignes, Pierre, quand moi aussi j'enseigne, ça va être la même chose au primaire, au secondaire, à l'université. OK? Ben, veux pas, ça prend une autre voie. Parce que là, il faut que je me fasse violence comme élève ou comme étudiant. Il faut que je sois attentif. Le prof est peut-être le fun, c'est génial, parce que ça me donne quand même un bon lien, une petite dynamique qui peut être intéressante, une matière peut-être que j'aime et qui fait en sorte que j'ai une motivation intrinsèque qui va être là. Mais tous les professeurs n'ont pas le même talent.
C'est toujours le cas.
N'ont pas nécessairement le même impact au niveau de mon appréciation. Donc là, il faut que je fasse un effort. Un gros effort. Puis même si j'aime une matière, il y a peut-être des parties de la matière que je n'ai pas envie. Par exemple, j'adore l'histoire, mais ne demande-moi pas de raconter les dates. Les dates, je m'en fous. Ce que j'aime dans l'histoire, c'est l'être humain, les dynamiques sociales de l'histoire. D'accord? Les dates, je m'en fous. Donc, si mon professeur me raconte des dates, la motivation intrinsèque, elle n'est pas très bonne. Je vais avoir besoin d'une motivation extrinsèque, j'ai peur d'échouer. OK? Non, mais de nouveau, je dois faire un effort. Et là, ça prend la voie longue. Puis je vais étudier, je vais présenter un examen et je vais devoir attendre que mon professeur me donne un résultat, que j'espère beau, bien entendu.
Oui, mais ça va être long, ça va être long.
Ça va être long. Donc, la dopamine va être libérée aussi, mais d'une manière beaucoup plus longue. Alors, si j'entraîne mon cerveau à aller de plus en plus vers la voie courte, je vais avoir de plus en plus de difficultés de tolérer la voie longue, de tolérer de faire des efforts.
Alors, Joël, qu'est-ce qu'on recommande? Parce que ça commence à la maison. Ça se passe à la maison. Qu'est-ce qu'on recommande pour, je parle plutôt en termes de... Mais c'est plutôt le temps d'écran.
Pas nécessairement. C'est plus compliqué que ça, Pierre. Dans le sens que moi, j'aime beaucoup quand je donne des formations ou des conférences sur le sujet, d'accord? J'aime beaucoup faire une comparaison avec l'alcool.
OK.
OK? C'est pas parce que je prends un verre de vin tous les jours que je suis nécessairement alcoolique.
Clairement, je suis d'accord.
Okay?
Ouais.
Si je te vois, par contre, me poser une question, c'est, Opelay, j'ai plus de vin, est-ce que je vais faire 25 km pour aller me chercher une bouteille parce que j'en ai absolument besoin? Et qu'il faut que je trouve un dépanneur ou une sac qui est libre ou ouverte pour pouvoir aller chercher éventuellement mon, comment dire, mon j'apprécie, d'accord? Donc, à ce moment-là, c'est le manque qui devient problématique, qui devrait m'alerter. On ne sait pas parce que je bois du vin que... Est-ce que quand je prends un verre de vin, je suis capable de m'arrêter ou j'en prends un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième? Deux bouteilles, trois bouteilles, quatre bouteilles, puis finalement, je ne me souviens plus du tout du reste de la soirée.
Ouais.
Là, à nouveau, ce n'est pas un verre, c'est le fait que je ne suis pas capable de m'arrêter. Troisième élément, est-ce que je bois du vin ou je bois du fort? Donc, ça veut dire que si je bois la même quantité de whisky que de vin, je vais avoir un problème. Donc, en fait, on voit que ce n'est pas parce qu'on utilise du numérique que ça devient nécessairement problématique. C'est qu'est-ce qui se passe quand je n'ai plus accès à Internet? Qu'est-ce qui se passe quand j'arrête? Qu'est-ce qui se passe? Quel type de regard, de jeux vidéo ou de films je vais regarder? Ou quel type d'interaction je vais avoir sur les réseaux sociaux? OK? Et... Okay. Qu'est-ce qui se passe si, je prends-tu des choses violentes ou je prends des choses qui sont douces? Autrement dit, si tu regardes la télévision et tu regardes un documentaire, tu t'instruis, tu utilises la voix longue. Si tu regardes un film avec Steven Seagal, d'accord, bagarre, c'est la voix courte. OK? Donc, si tu regardes, tu es en train d'écrire un livre ou tu prépares une chronique ou tu es en train de créer une image numérique parce que tu joues dans Photoshop, tu utilises la voix longue. Si tu utilises l'ordinateur uniquement avec des jeux vidéo ou avec les réseaux sociaux, c'est la voix courte. Donc, de discuter simplement en termes d'heures ou pas, c'est pas l'idéal parce que on passe à côté de l'essentiel. D'accord? C'est plus complexe. Et par contre, il y a des choses qui vaudraient mieux ne pas faire. Michel Desmurget, Bruno Harlet, Sabine Duflo, qui sont mes collègues européens avec lesquels je collabore beaucoup depuis en fait une douzaine d'années maintenant, disent que dans l'idéal, il ne faudrait pas mettre un enfant tout seul devant la télévision avant 2 ans. Dans le sens que si l'enfant est dans les bras de sa maman pendant que maman regarde sa série préférée, ça ne va pas avoir le même impact neurologique délétère que si je le mets devant bébé Einstein.
OK.
OK? Si l'enfant de 2 ans est à côté de son frère ou sa sœur, ou son grand frère ou sa grande sœur, il est dans le lien, il est dans le confort, il fait quelque chose. D'accord? Donc, on regarde, c'est le fait d'être avec ou pas avec quelqu'un qui va venir faire un changement. L'autre chose aussi, c'est que les tablettes sont extrêmement intuitives.
Ouais.
Les téléphones intelligents aussi. Donc, avant 6 ans, si, et ça c'est Boris Cyrulnik qui en France en parle beaucoup de l'impact, parce qu'il a même dirigé des travaux de plusieurs scientifiques, comme Lionel Carman l'a fait ici au Québec, c'est que ce que Boris racontait, c'est que il faut éviter de mettre une tablette dans les mains d'un enfant ou un téléphone dans les mains d'un enfant avant 6 ans, parce que le côté hyper intuitif fait en sorte que, au lieu de contribuer à développer le préfrontal, d'accord, eh bien, la voix courte fait en sorte que on active très rarement la voix longue, et on s'entend, avant 6 ans, la scolarisation n'est pas encore là.
Non.
Donc, le seul moyen, si tu veux, d'apprentissage est par la voix courte. Donc, on condamne la deuxième voie d'apprentissage qui est la voix longue.
Donc, si je résume, c'est pas nécessairement le temps, mais bien comment c'est fait.
Comment et quoi? Et à quel âge?
Et à quel âge?
D'accord.
OK. On a parlé, je lisais un article là, dans la presse qui disait que fallait, pendant les repas surtout, éteindre les appareils numériques. Pourquoi?
Là, il y a plein de raisons. Tu sais, c'est très comique parce que quand j'étais un enfant, j'avais été voir un monastère avec mes parents. Et le moine qui nous faisait visiter le monastère nous disait, ah, pendant le temps de midi, quand on mange, il y a un moine qui lit la Bible. Puis nous, comme enfants, ah, c'est donc ben plate, il lit la Bible pendant qu'ils sont en train de manger. OK? Puis alors là, il nous regarde parce qu'il s'attendait probablement à notre réaction, mais vous faites la même chose. Quand vous mangez, vous regardez la télévision.
Ouf.
OK? On s'entend que ce n'est pas le même genre de nourriture spirituelle ou informative, mais il disait, ben, ça nous amène à être en silence. Donc, eux, ce qu'ils veulent, pourquoi est-ce qu'il y a ça? C'est qu'ils veulent qu'on soit en contact avec la nourriture qu'on est en train de manger. Ça veut dire que si je suis en contact avec la nourriture, je mange mieux parce que je vais, un, mieux goûter ce que je suis en train de manger, et deuxièmement, au moment où je vais avoir une satiété qui apparaît, si je suis connecté à ce que je suis, parce que je suis dans le silence, d'accord? Et je ne me laisse pas distraire par d'autres choses, mais veux pas, à ce moment-là, je vais peut-être manger moins et manger mieux.
Mieux.
D'accord? Donc là, il y a déjà un aspect. L'autre chose, c'est que le repas, ça devrait être une fête. Mm-hmm. Et quand tu fais à manger, je ne sais pas comment toi tu fais à manger quand c'est toi qui prépares le repas, mais quand moi je prépare un repas à la maison, j'aime toujours ça, mettre plein de couleurs. Et par exemple, comme je sais que les enfants aiment plus ou moins le type de légumes qu'on peut préférer, j'ai plutôt de faire une salade dans laquelle tout est dedans, je fais plein de petits bols dans lesquels je mets plein de légumes et la consigne c'est ben, vous en prenez au moins deux. Vous pouvez en prendre plus, mais vous en prenez au moins deux, mais ils vont choisir. Ceux qui veulent. Donc, on fait en sorte que le repas soit un espace agréable. Le repas, ça ne devrait pas être un moment où on parle de la chicane qu'il y a eu entre les enfants une heure plus tôt, ou la niaiserie qui s'est faite à l'école pendant la journée, ou éventuellement ceci ou cela qui est un espace négatif. On essaie d'être agréable, positif pendant le repas. Alors, regardez une série. Ça peut se faire occasionnellement, dans le sens que, tu sais, mettons qu'un jour, le Canadien est en finale de la Coupe Stanley. On peut rêver quand même, d'accord? Et que, à ce moment-là, on veut regarder la finale, qu'on mange de la pizza devant le match. C'est pas grave. C'est pas ça qui est problématique. Le problème, c'est si je regarde systématiquement les nouvelles, donc des mauvaises informations, on s'entend, ça sert à que les nouvelles vont nous donner des bonnes nouvelles, d'accord? Les journaux vont nous donner des bonnes nouvelles, ou que j'ai une série qui peut être intéressante pour tout le monde, mais en même temps qui peut-être me détourne de la relation. Or, si on veut que nos enfants grandissent et développent un cerveau en bonne santé, ils ont besoin de la connexion avec leurs parents. Nos enfants, nos ados ont besoin de nous, ont besoin de se sentir connectés avec nous. Donc, surtout s'ils ont vécu des choses plus difficiles pendant la journée, plus difficiles que, mettons, ils ont vécu de l'intimidation, ils ont peut-être eu un échec, ils ont peut-être vécu une rupture amoureuse ou un ami n'a plus voulu jouer avec eux aujourd'hui ou finalement, il y a des choses désagréables qui se passent parce que malheureusement, la vie, c'est la vie.
Okay? Oui.
Mais si au moins, quand ils sont au repas, les enfants sentent la connexion avec leurs parents, ça leur fait tolérer le stress. Sans connexion avec les parents, le stress devient toxique. Et ça devient aussi toxique que la rouille sur notre voiture. D'accord? Donc, ce lieu de connexion, c'est pour ça qu'on ne doit pas faire de la discipline quand on est à table. Oui, il faut s'arranger pour que nos enfants développent des réflexes de bienséance, comme je parlais tantôt au restaurant, d'accord? Mais d'être ensemble, parler, échanger, discuter, apprendre quand on est au restaurant à ne pas lever le ton parce qu'il y a d'autres tables qui sont autour de nous, on développe des habiletés sociales. Donc, quelque part, c'est une richesse, les repas. Et je m'en prive complètement de tous ces apprentissages-là si je suis devant la télévision.
Donc, il y a le fait aussi, on parlait du développement langagier de l'enfant quand on est ensemble et qu'on jase et puis qu'on... Il y avait la description aussi du visage de l'adulte. Tu sais, l'enfant, quand il est pris dans son écran, ne voit pas.
Même pire. On a démontré tantôt quand je disais qu'il ne faut pas mettre l'enfant de 2 ans et moins seul devant la télévision et pas de tablette avant 6 ans. C'est que les orthophonistes, c'est une recherche qui date quand même d'il y a maintenant 4-5 ans, avaient démontré en fait que 40% du langage était appauvri et qu'on considérait désormais que les enfants qui étaient continuellement sur les écrans depuis leur jeunesse, leur bas âge, en fait, avaient en fait une qualité de langage qui s'apparentait à celle que l'on observe chez les familles les plus défavorisées qui existent. D'accord? Puis les familles défavorisées, il faut qu'on les aide. Je suis pas en train de les critiquer. Se rend compte que ces familles-là qui en ont beaucoup sur les épaules, qui vivent dans la pauvreté, qui ont de la misère à joindre les deux bouts, OK? Ben, veut pas. Ils ont souvent des travaux, un travail moins intéressant. Ils ont souvent une perte d'emploi beaucoup plus facile et tout ça. Ils ont un vocabulaire plus limité, plus restreint. D'accord? Ce qui est, qu'on va voir dans tous les pays. Ce n'est pas juste au Québec qu'on va voir ça. Eh bien, les enfants qui sont sur un écran en bas âge, vont avoir le même genre de défi quand on les observe à 4 ans et à 6 ans.
Oh.
D'accord? Donc, c'est quelque part, oui, c'est important de faire attention. Et alors, là où tu as raison, Pierre, c'est que le fait de regarder la télévision ou de regarder les écrans, ça peut nous poser problème. Il ne faut pas oublier non plus que, malgré les apparences, on lit aussi sur les lèvres. OK? Mm-hmm. Donc, si on est en train de regarder une série américaine qui est traduite en bon québécois, d'accord? Eh bien, on doit faire abstraction de la bouche. Parce que sinon, il y a un mismatching.
Ça ne marche pas, là. Ouais.
Exactement. D'ailleurs, quand les enfants commencent à apprendre l'anglais à l'école, ils se rendent compte que ça devient presque bizarre de regarder une série. Et même certains vont finir par regarder la série uniquement en anglais. Mm-hmm. Parce que il y a moins de distorsion entre ce qu'on voit et ce qu'on entend. Parce que le bas du visage est toujours, comment dire, est plus utilisable et plus visible. Exactement. Puis il faut pas oublier, les gens qui font de la PNL le disent allègrement. Le langage, les mots qu'on utilise, c'est entre 7 et 13% de la communication, pas plus. La communication, c'est mon intonation, ce sont mes mimiques, c'est le rythme avec lequel je vais parler, c'est ce que je dégage quand je parle. Donc, si on est sur un écran, on n'a pas tout ça. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il y a autant de rage sur les réseaux sociaux, c'est que on a accès que aux mots. D'accord? Et donc, à partir de ce moment-là, l'interprétation du mot ou des mots ou de la phrase se fait au départ de qu'est-ce que moi je vis. Alors, si toi t'écris, d'accord, un mot pour me taquiner, si je t'entends, je vois que tu es en train de me taquiner, si je te vois, tu as ton sourire jusqu'aux oreilles, mais si je le lis.
Si je mets pas de smiley après, c'est sûr et certain que ça marche pas.
Mais même avec les smileys,
ah oui, ça peut être.
On va le vivre de la même manière. Ou est-ce que je vais avoir un serrement, tu sais? Et comme on sait que les algorithmes qui sont utilisés par les réseaux sociaux, par définition, nous amènent vers des choses de plus en plus trash, parce qu'on devient prisonnier du trash beaucoup plus, la même raison pour laquelle on nous donne des mauvaises nouvelles aux journaux télévisés ou aux journaux écrits. D'accord? Le trash nous maintient captifs du média.
On n'est pas sorti du bois?
Non! Non, d'autant que le fantasme des gens qui sont dans la Silicon Valley et ailleurs, c'est de nous intégrer des puces directement dans le cerveau pour que c'est un peu comme si on devrait devenir des êtres cyborgéniques. Mm-hmm. Puis pour des geeks, peut-être que c'est un fantasme qui s'explique. Qui peut, ok, ceux qui le veulent, pourquoi pas, mais est-ce qu'on est prêt à ça comme société? On n'a pas eu de réflexion, il n'y a pas eu de réflexion éthique, et le transhumanisme est en train de s'implanter de plus en plus à la fois à travers l'usage que l'on a des médicaments et à travers l'usage que l'on a du numérique, et est-ce qu'on est d'accord avec cette direction que la société occidentale est en train de prendre? Si tu savais les règles qui ont été mises en place par les Chinois pour ne pas que leurs jeunes soient omnubulés par TikTok, non seulement ils contrôlent, d'accord, le temps d'écran du jeune, mais ils vont contrôler aussi le contenu. Donc, TikTok en Chine va te montrer des documentaires.
Oh!
Et les jeunes Chinois veulent devenir des astronomes ou des physiciens. Alors que nous, on va nous montrer
des petites danses.
Genre, tu sais?
Et du trash.
Et donc, qu'est-ce que le jeune veut faire? Il ne veut pas être physicien, il ne veut pas être astronaute, il ne veut pas être médecin, il ne veut pas être maçon, il ne veut pas être menuisier, il veut être influenceur. Mm. Et c'est là que notre société est en train d'être prise dans une dynamique qui est de plus en plus problématique. Et j'ai hâte que Lionel reprenne d'ailleurs les travaux pour continuer justement la réflexion sur l'usage en fait du numérique, d'accord? Parce qu'on s'entend qu'un enfant qui a de la difficulté à s'asseoir aussi en classe, mais souvent, on va le confondre avec un enfant TDAH. Un enfant qui est déprimé parce qu'on l'a insulté sur les réseaux sociaux ou qui est en manque de sa stimulation numérique, ça va ressembler à un enfant qui est anxio-dépressif. On va lui proposer des antidépresseurs.
Joël, c'est directement lié, ça?
Mais en fait, c'est que...
Parce qu'au Québec, en passant, on est réputé pour les pilules. Hein?
Oui. Mais en fait, ça, c'est pourquoi? Parce que, notamment, l'assurance médicaments permet justement la pilule très accessible à tout le monde à un prix dérisoire, contrairement même à ce qui se passe en Europe, même s'il y a des gouvernements socialistes en Europe qu'ici, ça reste que ça coûte beaucoup plus cher de prendre des médicaments en Europe que ici au Québec.
Mais en fait, Joël, je comprends ça, ce point de vue-là, mais comme moi, je suis à l'école depuis 20 ans, avant de proposer aux parents d'aller faire des tests et de peut-être envisager une pilule. Moi, je compte ça en partant. J'ai un travail à faire, moi, en tant que prof, dans la place où l'élève va être dans la classe, les activités que je vais proposer, etc., etc. Qu'est-ce que je peux lui permettre à lui que je ne permets pas nécessairement aux autres, façon de parler, là. Il y a des choses à faire avant d'arriver à la pilule. Malgré tout ça, on est des pros de la pilule.
Oui, mais là où vous faites.
C'est pas nécessairement
de l'enfant et c'est le sentiment d'impuissance de l'enseignant ou des parents face à un enfant qui est en détresse, qui a des difficultés d'apprentissage. D'accord? Ou qui se désorganise, ou qui bouge tout le temps, ou qui est facilement dans la lune. Ce qui est vrai, c'est le comportement. Ce qui est faux, c'est l'interprétation du comportement.
OK? C'est ça.
Donc, par exemple, il y a une étude du CEREA qui est sortie il y a une grosse année maintenant qui a démontré que les bébés de la classe, donc les enfants les plus jeunes, sont beaucoup plus souvent diagnostiqués. On monte à 22%. Donc, presque un enfant sur quatre qui est né pendant l'été reçoit un diagnostic de TDAH au Québec. Je ne crois pas que c'est logique. Alors que s'il était né pendant l'automne, donc il faisait partie des plus vieux, ce serait 17%.
Mais pourquoi? Okay?
Parce que, de nouveau, on interprète mal les signes, d'accord? Dans le sens que on part du principe, le modèle de base qui a été créé dans les années 90, c'est qu'on disait que c'est un trouble de neurodéveloppemental d'origine génétique. Donc, on s'entend que si on reste avec cette croyance-là, on pense qu'on peut rien faire. Et donc, dès qu'un enfant bouge un peu trop, dès qu'un enfant est un peu trop impulsif, dès qu'un enfant est un peu trop inactif, c'est un trouble neurodéveloppemental d'origine génétique. Et c'est vrai que peut-être que pour certains, c'est l'explication. OK? Mais pas pour autant d'enfants. L'autre chose, c'est qu'il y a une industrie pharmaceutique qui est poussée à faire des profits parce que ses actionnaires veulent avoir des plus grands dividendes. Donc, on a un modèle d'affaires où il y a des experts qui sont payés par des boîtes de com pour nous faire croire qu'il n'y a pas d'issue autre que la médication.
OK.
OK? Autre élément, il y a un modèle d'affaires chez les neuropsychologues. Parce que leurs tests, quand il y a une différence selon le mois de naissance, démontrent que leurs tests ne sont pas valides. Mais ils sont persuadés que c'est la seule manière d'évaluer un enfant. Tous les neuropsychologues qui mettent des nuances dans l'évaluation des jeunes se font harceler par le syndic de l'ordre des psychologues. C'est terrible ce qui est en train de se passer actuellement dans l'évaluation de nos jeunes. Oui, on a un problème actuellement avec le syndic de l'ordre des psychologues, comme on a un problème au niveau de la médecine intégrative, c'est-à-dire différentes manières de se traiter pour pouvoir arriver à maintenir notre santé ou la retrouver avec le syndic du collège des médecins. Ça ne veut pas dire que le collège des médecins et que l'ordre des psychologues sont d'accord avec ce qui se passe, mais c'est une interprétation, en fait, de la situation qui fait en sorte qu'on va privilégier l'image au lieu des besoins de la population. C'est pas pour rien que d'ailleurs Sonia Lebel est en train de réviser la loi sur les professions parce que c'est vraiment généraliser les problèmes où les syndics agissent d'une manière qui est délétère par rapport à la société. Si tu savais le nombre de suicides d'ailleurs qu'il y a dans certaines professions à cause d'enquêtes qui n'ont aucun bon sens, c'est terrible. Mais ça, je vais m'arrêter là-dessus parce que sinon, je vais être trop craqué et émotionnel. Bref, toujours est-il que là où je voulais le dire, le quatrième élément, c'est l'INES. L'INES, c'est l'Institut national de l'excellence en santé et en services sociaux. Mmh. Il n'a pas révisé les normes d'évaluation depuis 2001. Même si, il y a 5 ans, je suis sorti avec un groupe de pédiatres où on a dénoncé la surmédication de nos jeunes. Il y a une commission parlementaire qui s'est adressée au sujet et l'Assemblée nationale a demandé à l'INES, d'accord, de réviser les normes. 5 ans plus tard, c'est toujours pas fait. Donc, l'INES fait pas sa job. D'accord? Or, l'INES, c'est lui qui va donner les lignes directrices aux personnes qui font les évaluations et aux personnes qui prescrivent les médicaments. Donc, tu vois que tout ça, l'un dans l'autre, modèle d'affaires, manque d'anticipation, détresse et tout ça, ça fait en sorte qu'on a de plus en plus. Puis pour le parent qui doit essayer de se faire une thèse sur le problème, pour l'enseignant à qui, lui, il a peut-être 5-10 enfants dans sa classe qui sont hyper craqués, il y en a que c'est un problème d'écran, il y en a que c'est un problème de divorce entre les parents, il y en a que c'est ou les conséquences du divorce, il y en a que c'est parce que ils ont subi de l'intimidation, il y en a que c'est parce que ils sont juste pas bien, il y en a que c'est un problème de nourriture. Tu sais, on est dans une crise économique, donc il y a certaines familles qui ont pas toujours l'argent pour manger des bonnes choses, donc ils vont manger des choses dans lesquelles il y a des colorants et les colorants ont un impact sur le comportement, d'accord? Donc toutes ces choses-là, d'une manière ou d'une autre, vont venir influer sur le comportement. Donc si moi, mes lunettes, c'est de dire que l'enfant bouge trop ou il est inattentif ou trop impulsif, c'est juste à cause d'un TDAH. Mais c'est là qu'on va avoir une direction vers la médication et on ne remettra pas en question la dynamique familiale, le numérique, la nourriture, l'intimidation éventuellement que le jeune peut vivre ou pas vivre. D'accord? Donc, toutes ces choses-là font en sorte que malheureusement, on conduit nos jeunes dans une direction qui est probablement pas celle dont ils ont besoin. Ça ne veut pas dire que le médicament ne va pas les aider. D'accord? Mm-hmm. Parce que peut-être qu'au moment où il est sous le médicament, il fait abstraction de tout le reste et il fonctionne. Mais d'un point de vue sociétal, c'est pas ça qu'on veut. On veut que le jeune développe son autonomie et se responsabilise.
Je suis d'accord. Et, dernière question, parce que le temps avance très rapidement, Joël. On parle de... Là, on est entré dans la classe. Le sujet est entré dans la classe. Et puis, le numérique prend aussi de la place dans la classe. Il y a énormément de sites Internet qui sont développés pour faire jouer les élèves, en guillemets, à des jeux éducatifs. Les tablettes sont dans les classes. Dans plusieurs écoles, c'est un élève, une tablette. Est-ce qu'il y a des recommandations là-dessus? Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites? Est-ce que, par exemple, moi, là, au primaire, on n'a pas les moyens, là, on est dans une école publique, on n'a pas les moyens d'avoir une tablette par élève, là. Je vais faire des petites présentations orales par mes élèves avec un petit PowerPoint ou un Canva. Je vais dire aujourd'hui, on s'en va sur tel site pour aller voir telle information, puis on va en discuter après. Est-ce que, à quelques heures par semaine, on est en danger?
Mais je dirais que là où il faut faire attention, c'est que si on ne fait gaffe, dans 10 ans, le métier d'enseignant est fini. Il n'y en aura plus. On n'en aura plus besoin. Parce qu'on va avoir plein de tutoriels avec des professeurs extraordinaires qui font en sorte qu'on n'a plus besoin du prof dans la classe. À part on aura besoin d'un adulte pour faire la surveillance, on aura besoin d'un adulte pour créer un lien avec les élèves, mais on n'aura plus besoin du prof. OK? Donc, ici, je vais...
Tu crois ça sincèrement?
Mais si on continue à prendre la direction dans laquelle on est, pourquoi pas? On va avoir le même problème avec la médecine. Si les médecins ne prennent pas plus de temps pour écouter le patient et de faire une analyse différenciée de tous les symptômes qu'ils peuvent vivre, plutôt que simplement avoir 8 minutes et de proposer une prescription, dans 10 ans, l'intelligence artificielle sera beaucoup plus efficace pour pouvoir faire le travail au quotidien. OK? Donc, c'est une révolution qui est là. C'est une société. Quand tantôt, je parlais de transhumanisme, d'accord? Ça fait partie des enjeux qui sont là. Mais au-delà de ça, il faut se rappeler que la loi sur l'instruction publique dit on peut utiliser le numérique à partir du moment où c'est un outil didactique, que c'est une stratégie pédagogique. Autrement dit, si je veux permettre à mon jeune de développer une présentation avec des slides qui font en sorte que sa présentation orale et de meilleure qualité, c'est un outil qui est utile. Si on fait une recherche, avant on avait des dictionnaires papier, maintenant j'ai un dictionnaire Internet, pourquoi pas? J'ai envie de savoir, tiens, on parle de Charlemagne, mais j'aimerais savoir, moi, c'est qui Pépin le Bref? Et pouf, je clique sur un lien pour savoir qui est Pépin le Bref. OK? Et puis là, je découvre Berthelon Pied. Puis là, je découvre, en fait, Louis le Gros. Et je commence à comprendre un certain nombre d'interactions entre différents personnages historiques. Je pourrais très bien faire ça avec d'autres connaissances, on s'entend.
Ouais, ouais.
Mais c'est quelque chose qui est utile. Ouais. L'Internet est là et nous aide à accumuler voie longue, tout ça. Tout ça, c'est la voie longue.
Exact.
Le problème, c'est que si, plutôt que je fasse du calcul mental sur une feuille, que j'attende que le professeur fasse la correction devant tout le monde ou corrige éventuellement l'évaluation chez lui le soir pour me donner mon feedback demain matin éventuellement ou après un congé de 4 jours, okay, que j'ai un ordinateur qui me donne la réponse immédiatement. Waouh! C'est génial! Et donc là, je vais avoir besoin de ma réponse immédiate, voix courte. Je vais avoir de la difficulté à aller chercher ma voix longue, de réfléchir à la solution de mon problème. OK? Donc, quelque part, oui, l'Internet ou le numérique peut m'aider, mais aussi peut me piéger. Donc, en fait, il faut varier les supports. Tu sais, depuis que j'écris mes livres et mes écrits à l'ordinateur et que j'ai un feedback immédiat sur mon orthographe et ma grammaire,
exact.
J'ai améliorer mon orthographe de manière phénoménale. Parce que là, ça justifie. Okay?
Mm-hmm.
Le feedback immédiat par rapport aux mots que j'utilise est génial. Probablement pas pour les mathématiques. Donc là où ça peut m'aider éventuellement pour le français, ça va me nuire pour les maths.
Et ça peut, pendant qu'il s'occupe de tes fautes d'orthographe, tu peux t'occuper, toi, de tes idées à développer la structure de tes phrases.
Tout à fait. Et l'ordinateur va me dire, écoute, tu sais, à l'époque, parce que Pierre, tu parlais tantôt, tu as enseigné en cinquième, moi, j'ai une ancienne carrière qui était celle d'être enseignant et j'ai enseigné en cinquième année primaire.
Exact.
D'accord? Puis j'arrivais facilement à mobiliser mes élèves pour la plupart des cours, d'accord? Sauf le français. En Belgique, c'est l'année la plus tough en termes d'apprentissage technique du français.
Mm-hmm.
Et là, je rushais comme enseignant pour que mes cours soient le fun. Mais je voyais aussi mes élèves qui rushaient. OK? Donc, ce que j'ai décidé de faire à un moment donné, c'est que je leur ai montré le film « L'histoire sans fin ». D'accord? Oui. C'est l'histoire d'un petit garçon qui tombe, en fait, dans son livre et on est en train de parler de l'imaginaire qui est en train de disparaître parce que la télévision est trop présente. On s'entend que l'enjeu avec le numérique, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'était donc déjà présent il y a 30, 40 ans. OK? Oui. Et une fois que les élèves ont eu terminé de voir le film, je les ai amenés à réfléchir sur la problématique de l'imaginaire, de la création, de la lecture. Donc, il y a une discussion que l'on a. Et à la fin, je dis, est-ce que ça vous tente qu'on monte notre propre film? Qu'on écrive un film? Waouh! À ce moment-là, on n'avait pas de téléphone. OK, c'est encore des vieilles caméras VHS. OK? Donc, pour les enfants, waouh! OK? Donc, à partir de ce moment-là, j'ai amené tous mes cours, non pas à prendre les phrases toutes faites qui étaient dans les manuels, mais la structure, les phrases et l'orthographe des élèves pendant la création de tout le film, du scénario, des dialogues et ainsi de suite. Donc, en fait, les élèves étaient mobilisés, une motivation autonome, intrinsèque. Hey, je vais avoir des meilleures phrases, je vais avoir des meilleurs dialogues. OK? Mm-hmm. Et en plus, ils l'appliquaient pour pouvoir arriver, en fait, à améliorer leurs phrases d'une fois à l'autre. Donc là, j'avais déclenché une motivation intrinsèque chez les jeunes et c'est plus uniquement la peur d'avoir un échec qui les mobilisait. Et c'est là que tu vois leurs notes monter. Donc, tu vois que le numérique en lui-même n'est pas un problème. C'est la manière dont on utilise le numérique qui peut devenir problématique. Là où il faut faire attention, la plus grande résistance à stopper les téléphones dans les écoles, tu sais de qui ça vient?
Non.
Des parents. C'est les parents qui veulent pouvoir contacter leur enfant 24 heures sur 24. Les parents sont angoissés, ils ne vont pas bien. Beaucoup d'adultes ne vont pas bien pour l'instant. Donc, pour eux, de pouvoir parler avec leur jeune n'importe quand ou lui envoyer un texto et d'avoir une réponse la plus rapidement possible de leur jeune, ça répond à leurs angoisses existentielles et la peur qu'il arrive un malheur à leur enfant ou la peur de perdre le contact et ainsi de suite. Ce qui fait en sorte que, c'est d'ailleurs ce qui conduit, c'est le même problème qui conduit au texto au volant.
Mm-hmm. Donc,
phénomène. D'accord? Souvent, c'est les parents qui vont résister à ce qu'on bloque les téléphones dans les écoles. Et je crois que nous avons, en fait, notre société est rendue à un point où, oui, il est urgent de réfléchir à l'usage du numérique. Pas parce que le numérique est mauvais, mais parce qu'il faut l'utiliser correctement, comme une voiture. Ma voiture n'est pas mauvaise en soi, mais si je l'utilise mal, je deviens un danger pour moi ou pour les personnes qui sont autour de moi ou qui sont dans mon auto. D'accord? Donc, ce n'est pas la voiture qui est en tort, c'est mon usage de l'auto.
On utilise la voiture pour aller au dépanneur maintenant.
C'est ce qu'il faudrait éviter.
T'as côté. D'accord?
Mais en même temps, moi, j'ai le dépanneur est à 8 km de chez moi.
Ouais, tout dépendant d'où est-ce qu'on se situe. Là.
Non, j'ai besoin éventuellement de ma voiture, sauf ouais. que s'il manque du lait, c'est pas grave, ça attendra la fois prochaine. S'il manque ceci ou il manque cela, c'est pas grave. On va juste modifier nos habitudes de vie en fonction de ce qu'on a dans le frigidaire, comme nos ancêtres le faisaient.
Exact. Et Joël, écoute, je ne te retiens pas plus longtemps parce qu'on avait un temps limité. Je te remercie énormément. Je trouve que ça termine vraiment très bien l'entrevue. Donc, le numérique n'est pas mauvais. Tout dépend comment on l'utilise, quand on l'utilise et avec qui on l'utilise, dans quel but. Moi, je pense que ça résume un peu l'entrevue. Merci beaucoup, Joël, pour ta présence encore ce soir. Et puis, en espérant te revoir bientôt.
Avec grand plaisir. Puis, salut à tout le monde. Passez une belle fin de soirée.
Merci Joël, bye bye. C'est ce qui termine l'entrevue que j'ai fait avec Joël plus tôt cette semaine. C'est un homme vraiment très généreux de son temps. Il a été vraiment incroyable. J'aimerais avoir maintenant vos commentaires sur ce qu'il nous a dit ce soir. Vous pouvez le faire directement en dessous des vidéos. Vous pouvez m'écrire aussi à pierre@commercialludoka.ca pour m'en parler. Le mieux, en fait, aussi, c'est de s'abonner à l'infolettre. Hein. J'en ai parlé tantôt, je l'ai mis en dessous. Là. Attendez un petit peu, je vais vous mettre ça ici. L'infolettre, voilà. Donc, pour ne rien manquer, je ne suis pas vraiment tannant avec mon infolettre. J'en avoir une de temps en temps là, pour vous annoncer la nouvelle émission, qu'est-ce qui va se passer dans l'émission sortie de classe. Et aussi, mes réflexions sur l'éducation générale, sur notre super système qui va super bien. Mais malgré le fait que ça se passe pas super bien, il y a des belles choses qui se passent en éducation. Et sortie de classe est là pour les souligner. Alors, si vous avez des idées de sujets pour sortie de classe, si vous avez des idées d'invités, vous connaissez ces invités-là, ils sont disponibles pour venir me voir. Mais comme vous pouvez voir, je peux préenregistrer l'émission, je peux préenregistrer l'entrevue. Ça va me faire plaisir de recevoir les invités que vous voulez avoir. Donc, sur ce, c'est déjà terminé. J'espère que vous avez apprécié Sortie de classe, épisode 3 de la saison 6. Mesdames et messieurs, 6 saisons. Je vous le dis, ça peut être entre 80 et 90 heures d'écoute. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est l'écouter en balado. Vous devez absolument aller voir... en balado, attendez un petit peu, je vais vous montrer ça. C'est ici, donc, Pierre qui roule sur les différentes plateformes. Donc, vous pouvez ça, vous pouvez l'écouter là, à votre rythme. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été nombreux ce soir. J'ai eu d'excellents commentaires, tant sur Twitter, sur YouTube, que sur Facebook. Vous pouvez répondre à ces commentaires-là sans problème. Donc, merci Martine, merci Enquête, Enquête qui était, c'est un nom, c'est un nickname évidemment. Donc, sur YouTube, pour vos commentaires incroyables. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine et soyez attentifs. Donc, vous pouvez me suivre en passant sur à peu près tous les réseaux sociaux avec Pierre Barre de soulignement Le Prof, donc sur TikTok, sur Instagram, le Centre d'apprentissage Ludoka à sa page Facebook que vous pouvez aimer. Sans problème. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Bye bye tout le monde. À la prochaine.